Vous écoutez, on lit pour vous.
Elle, récit d'un corps fragmenté et d'une intimité arrachée. Un texte d'Inès Bouguera, paru le 16 mai 2024 dans Le Voyageur de Sudbury. L'écrivaine sud-buroise Pierre Courville, P-I-E-R, a fait le déplacement depuis Montréal pour présenter son nouveau livre « Elle » au pluriel, paru aux éditions AMAC dans le cadre du Salon du livre du Grand Sudbury 2024. Commandité par le Centre Victoria pour femmes, l'événement, qui a exploré des thèmes autour des violences faites au corps féminin, a bouleversé le public. Avant de présenter le livre « Elle », l'animatrice de la discussion, Elsie Miklis, et l'écrivaine Pierre Courville ont jugé nécessaire de donner un aperçu sur la place de la femme, l'abstention des témoins d'harcèlement à intervenir et la communication homme-femme. Pour amorcer la discussion, l'animatrice s'appuie sur une scène d'attouchement qui se déroule dans le fin fond de l'autobus. Elle met l'accent sur le choix de ces femmes qui, intentionnellement, se mettent à l'écart pour esquiver une pression masculine intenable. En effet, l'écrivaine confirme que le choix de l'emplacement de cette dixième mise en scène n'est pas anodin. Son sourire, en répondant à la question d'Elsie Miklis, indique que son allégorie a fini par frapper l'esprit de ses lecteurs. Véritablement, les femmes cèdent leur place pour se protéger contre toutes les formes de violence que leur infligent les hommes. Elsie Miklis avance dans la discussion et questionne l'écrivaine sur la place des témoins d'un acte de harcèlement. L'écrivaine déplore une dilution de responsabilité vis-à-vis de l'autre. Elle attire l'attention sur le rôle important des témoins. Pierre Courville rappelle que l'inaction participe au maintien de ces agissements et qu'il est du devoir de tous d'agir afin d'éradiquer la violence, l'intimidation et le harcèlement. La perte symbolique de sa place dans le bus invite Pierre Courville à s'interroger sur le rapport homme-femme et sur la qualité de la communication entre les deux. Bien que la perception de la communication soit différente selon le genre, l'écrivaine encourage à en faire une composante de la vie conjugale. Une douleur voilée. Elles, ce sont des victimes d'un prédateur errant. Elles, ce sont également celles qui sont assujetties au diktat de la bienséance. Pierre Courville crache des scènes de micro-agression et d'harcèlement dans les espaces publics et privés. Elles ne sont guère à l'abri de la libido de l'agent masculine. L'écrivaine confirme que le péril pour elles semble omniprésent. Dans son recueil de 46 récits, Pierre Courville présente des mises en scène d'un corps féminin réduit en un simple objet de convoitise. Elle brosse des micro-agressions et les classe à travers les diverses parties du corps. Elle use de sa plume pour raconter une violence que la majorité des victimes n'ose pas confier. L'écrivaine aborde aussi la problématique du rapport au corps et évoque les diverses injonctions esthétiques auxquelles le corps féminin est soumis. La description de la routine de ces femmes, obnubilées par leur poids, reflète l'intensité de la charge mentale qu'elles s'y infligent. Quoique le recueil réunit des récits d'organes violés, il unit une douleur voilée. Violence et injonction. Au bistrot de la Place des Arts, Pierre Courville a rencontré un public majoritairement féminin. Elle a offert à l'assistance une lecture dérangeante, mais nécessaire, afin d'oser dénoncer la violence et les injonctions physiques à l'endroit des femmes et des jeunes filles. L'écrivaine a fait la sélection de 3 chapitres qu'elle a lus à son audience. Avec une voix saisissante, elle a raconté des scènes autour des chapitres « Sa cuisse », « Sa joue » et « Son poids ». Le choix de Pierre Courville avait, comme le suggérait le thème de la rencontre, quelque chose de dérangeant. La description des scènes d'attouchement était tellement minutieuse que l'aversion se lisait sur les visages du public. Le récit sur le rapport au corps féminin faisait aussi parfois répandre des rires de personnes se reconnaissant dans le récit. Bien qu'elle se soit sentie plus libre d'explorer des tabous et des douleurs enfouies, Pierre Courville avoue déverser sa rage tout au long du processus d'assemblage des fragments des récits de vices et de sévices. Comment prévenir? Selon Pierre Courville, quand nous évoquons la question de la violence à l'endroit des femmes et des jeunes filles, nous pensons généralement à l'éducation et à la sensibilisation des hommes et des jeunes garçons pour abolir les diverses formes de violence. En revanche, l'écrivaine profite du lancement de son livre pour condamner le silence des femmes. Elle se prononce contre le sentiment de honte qu'habitent les victimes d'harcèlement sexuel et stigmatise le silence que la société leur impose. L'écrivaine encourage les femmes à dénoncer leur agresseur et à se rebeller contre les conventions sociales qui les réduisent au silence. Pierre Courville invite les femmes à se réconcilier avec leur propre corps et à s'émanciper du modèle du corps parfait. La présentation du livre « Elle » s'est terminée par une question du public. À partir de quel âge votre livre peut être lu? Pierre Courville recommande une lecture à partir de 15-16 ans, accompagné, respectivement, par un parent et un enseignant. C'était « Elle, récit d'un corps fragmenté et d'une intimité arrachée », un texte d'Inès Bouguera, paru le 16 mai 2024 dans « Le Voyageur » de Sudbury.
Plongeons plus écolo, un texte d'André Laroche, paru le 6 juillet 2024 dans la presse. Le Québec est le royaume de la piscine en Amérique du Nord. Ce joyau des arrière-cours consomme cependant beaucoup d'eau et d'énergie, en plus de rejeter des produits chimiques dans l'environnement. Comment se rafraîchir tout en minimisant son empreinte carbone et en soulageant sa conscience environnementale? L'incidence écologique d'une piscine n'est pas à négliger, reconnaît d'emblée Jacques Lenné, administrateur de l'Association des commerçants de piscines du Québec, ACPQ, en ajoutant qu'avec un demi-million de piscines, une piscine par tranche de 16 habitants, recensées dans la province, les conséquences sur l'environnement sont décuplées. Face à ces préoccupations, l'industrie déploie de plus en plus de réels efforts pour fournir des accessoires plus écologiques et éco-énergétiques, assure-t-il. Les manufacturiers tentent de réduire au maximum le recours aux produits chimiques et de maximiser la durée de vie de l'équipement pour ne pas remplir les dépotoirs. Jacques Lenné souligne, à titre d'exemple, l'apparition des filtreurs avec cartouches réutilisables qui peuvent être simplement nettoyés avant d'être remis en place. Ils évitent le rejet des résidus chimiques dans le réseau de distribution de l'eau occasionné par le nettoyage du sable d'un filtreur conventionnel. Le choix revient ensuite au consommateur, poursuit M. Lenné. C'est sûr qu'une piscine fabriquée au Québec permet de réduire les émissions de GES du transport et offre une durée de vie supérieure à celle d'un produit importé de Chine vendues dans les grandes surfaces. Habituellement, la clientèle réagit favorablement à cet argument. Enfin, le propriétaire est encouragé à faire une série de gestes, comme l'emploi d'une toile solaire, pour préserver la chaleur de l'eau. « Il y a de l'équipement pour ça », rappelle Jacques Lenné. Énergivore. L'utilisation d'une piscine peut représenter le tiers de la facture d'électricité annuelle d'une maison moyenne, selon Hydro-Québec. Une facture qui varie selon le type d'équipement utilisé, par exemple, pour réchauffer l'eau de la piscine. En été, cette proportion peut monter à 70 % de la consommation d'électricité de la maison. En comparaison, la climatisation de la maison représente 5 % de la consommation d'électricité, rappelle Sandrix Bouchard, conseiller stratégique en communication chez Hydro-Québec. L'installation d'un simple minuteur permet de réduire cette demande d'énergie. Par exemple, limiter le fonctionnement du système de filtration pendant 6 à 12 heures suffit à garder intacte la qualité de l'eau, suggère M. Bouchard. Une pompe programmable à vitesse variable offre aussi des économies d'énergie, affirme Jacques Lenné. Sa vitesse varie selon les besoins de la journée. Durant la nuit, elle tourne simplement au ralenti. Côté chauffage, une thermopompe est 3 fois plus efficace qu'un chauffe-piscine au gaz naturel. L'abaissement du point de consigne de 2 degrés Celsius et l'utilisation d'une toile solaire contribuent aussi beaucoup à diminuer l'impact énergétique, rappelle Sandrix Bouchard. Les rejets. Le traitement de l'eau provoque le rejet de produits chimiques dans les égouts ou directement dans l'environnement. Dans un souci écologique, de plus en plus de propriétaires se tournent vers la piscine au sel. Moins irritant pour les baigneurs, ces systèmes, coûts variant entre 800 et 2000 $, rejettent tout de même environ 100 kg de sel lors des vidanges annuelles, déplore Écohabitation. 3 options moins dommageables sont apparues sur le marché, signale cet organisme voué à la construction durable. L'ionisation, l'ozonation et le réacteur UV. L'ionisation fonctionne avec des électrodes qui libèrent des ions métalliques permettant d'éliminer les algues, les bactéries et les virus. Ce système, coût variant entre 500 et 2000 $, permet de réduire de 70 à 90 la quantité de chlore et d'autres produits chimiques. L'ozonation est un procédé écologique utilisé dans de nombreuses usines de traitement de l'eau potable. Des électrodes ou des rayons UV transforment l'oxygène O2 en ozone O3, un puissant oxydant qui est ensuite introduit dans l'eau. Il permet, lui aussi, une réduction des quantités de chlore. Le réacteur UV, lui, fait circuler l'eau dans un cylindre muni d'une lampe UV. Il permettrait d'éliminer 99,9% des bactéries, des algues et des virus. Ce système a moins de répercussions négatives sur l'eau que les autres modes de traitement, et il offre un beau rapport qualité-prix, selon Écohabitation. Le générateur d'ozone avec UV combine ces 2 procédés. Il ne dérègle pas l'équilibre de l'eau, pH, son entartrage est limité et il ne crée pas de corrosion. Il permet aussi de limiter les irritations à la peau, aux yeux et au système respiratoire, affirme Écohabitation. Ce système, coût de 1 200 à 2 000 exige un entretien régulier et il faut remplacer les lampes UV environ tous les 2 ans, 125 $. Les matériaux. Chaque type de piscine n'a pas la même empreinte carbone. Chacune se distingue par son matériau, sa conception et sa durée de vie. Une piscine creusée aura une durée de vie presque deux fois plus longue que celle d'une piscine hors terre, indique Jacques Lenné. Des manufacturiers québécois fabriquent des piscines en fibre de verre, facilement installables, qui ne nécessitent pas de béton, dit-il, avant de souligner qu'une piscine hors terre en acier ou en résine de synthèse peut durer jusqu'à 15 ans. Les pires sont les piscines hors terre gonflables, affirme Emmanuel Cosgrove, cofondateur et directeur général d'Éco-Habitation. Elles sont faites entièrement en plastique non recyclable et elles ne durent qu'un été, deux au maximum. C'est une technologie jetable qui finit vite au dépotoir. Les autres options. Les spas de relaxation et de nage peuvent sembler de bonnes solutions de rechange à la piscine, surtout pour les propriétaires de petits terrains. Ils sont cependant munis de plusieurs pompes, fait remarquer M. Lenné. La piscine parfaite n'existe pas, croit Emmanuel Cosgrove. Néanmoins, la petite piscine à l'européenne, longue et étroite, se veut une bonne option. Elle consomme moins d'eau et, en conséquence, elle nécessite moins d'énergie pour sa filtration et son chauffage, dit-il. Les jeux d'eau et les brumisateurs sont aussi des solutions à envisager pour combattre la chaleur, ajoute-t-il. Le meilleur choix demeure cependant les piscines municipales, selon lui. La piscine la plus écologique est celle qui n'existe pas. Les piscines municipales sont moins onéreuses, moins dommageables pour l'environnement et plus sûres pour les enfants, souligne Emmanuel Cosgrove, cofondateur, directeur général et porte-parole de Cohabitation. La taxe piscine. Depuis 2017, plusieurs municipalités québécoises imposent une taxe sur les piscines dans une volonté de limiter les comportements néfastes à l'environnement. Cette taxe s'élève très souvent à quelques dizaines de dollars par année, indépendamment du type et du volume de la piscine. Cette mesure d'éco-fiscalité est considérée comme imparfaite par Tommy Gagné-Dubé, professeur adjoint en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Quand on écoute les débats aux conseils municipaux, on se rend compte que l'objectif des élus n'est pas d'éliminer les piscines ou de limiter leur taille. Ils visent simplement à faire payer les propriétaires pour le coût du traitement de l'eau, souligne ce chercheur à la chaire en fiscalité et en finances publiques. Cette taxe s'inscrit donc davantage dans une logique d'utilisateur-payeur plutôt que dans une volonté de modifier les comportements, poursuit-il. Pour que la mesure d'éco-fiscalité touche sa cible, selon M. Gagné-Dubé, des solutions de rechange doivent être offertes aux citoyens. Si on impose une taxe sur les piscines, qu'est-ce qu'on offre aux gens pour qu'ils puissent se rafraîchir durant les vagues de chaleur, conclut-il. C'était « Plongeons plus écolo », un texte d'André Laroche, paru le 6 juillet 2024 dans la presse.
Jackie, Marie-Marcelle, Chloé et tant d'autres. Une chronique de Denis-Daniel Boulet, parue le 21 mai 2024 dans le magazine Fugue. Bien avant que les enjeux trans ne fassent débat sur la place publique, que les personnes trans soient de plus en plus nombreuses à sortir du placard et fassent entendre leur voix et qu'elles soient écoutées, Fugue a rendu compte de la question trans dans ses pages. Par des entrevues, bien sûr, mais aussi en laissant une place aux chercheurs, chercheuses, rendant compte, entre autres, de leurs travaux. Des moments forts ont été vécus ainsi par l'équipe de Fugue. Certains se souviendront peut-être de Jackie Rêve. Difficile de faire le portrait de cette femme trans. Rebelle et sérieuse, éclatée mais aussi à ses affaires, elle voulait attirer les pouvoirs publics sur ses conditions de vie et de travail. Travailleuse du sexe, Elle avait, en 1998, fait la grève des prostituées pour protester contre les contrôles et les arrestations arbitraires de la police. Elle avait contacté Dire enfin la violence, organisme chargé de venir en aide aux personnes LGBTQ+, qui avaient maille à partir avec la police lorsqu'elles allaient draguer dans les parcs. Pour Jack, il rêve. Le combat était ailleurs. Depuis longtemps, elle voulait obtenir le changement de mention de nom et de sexe sur ses papiers d'identité. Changement qui lui était refusé parce qu'il fallait, selon le Code civil de l'époque, que la personne devait avoir subi des chirurgies qui devaient prouver l'irréversibilité du processus. Le code restait vague sur le type de chirurgie requise et sur leur nombre, mais ce qui était clair, sans chirurgie, pas de changement de mention de nom et de sexe possible. Or, Jack y rêve, était une travailleuse du sexe. Sa clientèle choisissait des femmes trans parce qu'elles avaient encore leur pénis. Pas question pour elle de perdre son gagne-pain en se soumettant aux exigences du code pénal. Pour se faire entendre, Jackie s'était tournée vers Fugue via notre collaboratrice de l'époque, Claudine Metcalfe, qui était aussi membre de Dire enfin la violence. Jackie voulait nous réserver un scoop. Elle avait décidé de s'enchaîner nue au téléphone public du hall principal du Palais de justice de Montréal, sachant que beaucoup de monde circulait dans cet espace. Le jour avait été fixé. Nous avions prévenu un avocat qui pourrait intervenir tout de suite car nous savions qu'elle serait arrêtée. Fin prêt, accompagnée d'un photographe, nous sommes partis du magazine Fugue en direction du Palais de justice. Jackie était nue, ou presque. Elle portait un mini-string sous un manteau de fourrure. Nous étions en hiver, il faisait froid. Et en chemin, je lui demande si elle a prévenu d'autres médias, dont les télés, de son petit coup d'éclat. Et sa réponse nous a surpris, Claudine et moi. Elle avait réservé l'exclusivité de sa prestation protestataire à notre magazine. Nous étions d'un côté touchés de cette attention, mais de l'autre, ce n'était peut-être pas suffisant pour attirer une grande visibilité publique. Au palais de justice, Jackie nous a demandé de s'éloigner d'elle, ne souhaitant pas que nous ayons des ennuis avec la sécurité. Puis, après s'être enchaînée, elle a laissé glisser son manteau de fourrure à ses pieds. 5 bonnes minutes se sont passées avant que 4 policiers ne l'entourent pour la protéger de la vue du public en attendant qu'un technicien arrive avec une pince capable de couper la chaîne qui la retenait. Mais tandis que les policiers tentaient de la couvrir de son manteau de fourrure, Jackie, par des mouvements d'épaule, s'en défaisait. Le coup d'éclat de Jackie Rêve n'a pas fait la une des journaux télévisés du soir, sinon une petite brève dans les quotidiens. Sa revendication, aussi juste soit-elle, n'est pas arrivée jusque sur le bureau du législateur. Il faudra attendre quelques années pour que le changement de mention de nom et de sexe ne soit plus contraint à des opérations et à des modifications corporelles pour être accordé aux personnes qui en font la demande. Jackie Rêve m'a marqué. J'ai aimé son courage ou sa folie, peut-être les deux. Sa vie, ses conditions de travail, ses difficultés au quotidien avec l'administration. Quand on était à l'époque femme trans et travailleuse du sexe, on ne partait pas en pole position pour bien se faire entendre. Ses propos, aussi sensés soient-ils, n'étaient pas pris au sérieux, du seul fait des préjugés et des condamnations morales que l'on portait sur les femmes trans et les travailleuses du sexe. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Quels autres rêves elle poursuit? Une autre personne déterminante pour moi survient quelques années plus tard en la personne de Marie-Marcel Godbout. Et je ne suis pas le seul à avoir été séduit par cette femme trans hors du commun. Un passé aussi rock'n'roll que Jackie Rêve. Marie-Marcel a connu la scène des bars de la Saint-Laurent, tout d'abord comme magicienne travestie sous le nom de Mimi de Paris, mais aussi les cellules des postes de police. Marie-Marcel menait, quand je l'ai rencontrée, une vie tranquille en compagnie de son mari et très proche de son fils et de ses petits-enfants. Mais toujours fidèle au poste près de son téléphone pour la ligne d'écoute qu'elle avait créée pour les personnes trans. Elle avait fondé en 1980 l'ATQ, l'Aide aux transsexuels du Québec, et organisait des rencontres de soutien pour celles qu'ils souhaitaient. Étant à la tête de l'organisme, les médias s'étaient intéressés à elle. De nombreux articles lui ont été consacrés. Elle était aussi invitée sur des plateaux de télévision pour parler des personnes trans. On est dans les années 80, et le sujet est encore bien sulfureux. Mais Marie-Marcel se moque des commentaires négatifs et des plaisanteries blessantes. Elle suit son chemin, la tête haute, le sourire au coin des lèvres, sûre, comme elle se plaisait à me le rappeler, que quiconque la rencontrait et parlait deux minutes avec elle, son regard porté sur les personnes trans changerait du tout au tout. Et pour avoir donné des conférences avec elle, je peux vous dire qu'elle savait retourner un auditoire à sa cause. Depuis son décès en 2017, je m'ennuie de mes rencontres régulières chez elle ou au restaurant dans le quartier qu'elle affectionnait tout particulièrement, Hochelaga-Maisonneuve. Bien sûr, je pourrais parler d'autres personnes trans, certaines proches de moi, de l'absurdité de ce fameux comité de sages mis en place par le gouvernement actuel, mais je souhaitais rendre hommage à ces deux personnages plus grands que nature, qui n'avaient pas dans leur sac à main des diplômes universitaires, ni plusieurs livres à leur actif, mais qui avaient profondément ancré en elles la générosité envers les autres. C'est peut-être cela, avoir du cœur. Impossible de finir cette chronique sans souligner le départ récent de Chloé Viau, qui, pendant une dizaine d'années, a donné son temps et son visage pour parler du genre, de la transition. Une autre femme de cœur, accueillant tout le monde avec un grand sourire, toujours prête à répondre aux questions. Au moment où l'on prépare le grand rendez-vous annuel de la fierté, que l'on se souvienne de Jackie, de Marie-Marcel, de Chloé, et de tant d'autres qui ont pavé le chemin de l'acceptation de la diversité. C'était Jackie, Marie-Marcel, Chloé et tant d'autres, une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 21 mai 2024 dans le magazine Fugue.